Alors ce matin, je vous propose non pas une prédication à proprement parler, ça va être un peu particulier. Je vous propose plutôt une réflexion que j'ai eue ces derniers temps sur les fêtes, et notamment les fêtes qui ont des origines païennes, c'est-à-dire qui n'ont pas une origine judéo-chrétienne. Alors je parlerai d'Halloween surtout, notamment aussi de Noël, et je prendrai évidemment quelques passages bibliques pour guider notre réflexion. Et il me semble que Halloween est vraiment une manifestation de notre société qui est en questionnement et qui cherche d'une certaine manière, peut-être pas de la bonne manière et même pas de la bonne manière, des réponses par rapport à la mort. La Bible nous en apporte et nous allons en parler dans quelques instants. En tout cas, en faisant des recherches sur l'origine de cette fête d'Halloween, j'ai trouvé beaucoup de points communs avec Noël. Et c'est pour ça que je parlerai aussi de cette fête du 25 décembre, qui finalement est aussi le jour de l'anniversaire de plusieurs idoles païennes. Dans le cas de Noël, c'est une fête qui a été récupérée par le christianisme et qui est maintenant très fêtée chez les chrétiens. En Occident, c'est même la fête la plus mise en avant dans le christianisme. Il y a tout de même un petit nombre de chrétiens, qui sont donc minoritaires, qui ne fêtent pas Noël, notamment à cause des origines païennes. Et concernant Halloween, c'est aussi une fête païenne qui a aussi des liens avec le christianisme, notamment le christianisme catholique. Halloween signifie en vieil anglais « la veille de la Toussaint », la Toussaint étant une fête célébrée dans l'Église catholique. Cependant, la fête d'Halloween n'a pas une bonne réputation parmi les chrétiens à cause du côté sombre, à cause des déguisements de monstres, etc. Cela dit, il y a des croyants qui participent à Halloween, surtout chez les jeunes générations. Et certains chrétiens vont dire que ces gens-là ont tort, voire ils ne sont pas vraiment chrétiens. Ce ne sont pas des vrais croyants. Sinon, ils ne participeraient pas à cette fête. Il y a donc des débats à propos d'Anne de Noël, à propos d'Halloween. Je me suis donc encore cette année posé la question autour des questions autour de ces fêtes. Quels sont leurs points communs? Quelles sont leurs différences? Pourquoi l'une est tant aimée, l'autre tant rejetée? Alors qu'elles ont des origines communes? En tant que chrétiens, pouvons-nous participer à une soirée d'Halloween? Est-ce une fête diabolique? Vous avez certainement déjà votre avis dessus. J'espère que je ne vais pas recevoir des patates et des tomates à la fin de ce message. Alors, Halloween est un terme, alors on va commencer par l'historique un peu de ces fêtes. On va commencer par Halloween. Ce sont vraiment des brefs résumés. Halloween est un terme qui vient de l'anglais ancien et qui signifie la veille de la Toussaint. Autrement dit, la veille de tous les saints, en fait. Enfin, c'est une contraction de la veille de tous les saints. Beaucoup de gens pensent que c'est une fête importée des États-Unis. Mais en réalité, elle nous vient d'Europe. Depuis au moins le Moyen Âge, les peuples marquent la période qui est à cheval entre l'été et l'hiver. La fin du mois d'octobre, c'est la fin des récoltes, c'est la fin des journées claires. En Bretagne, au XVe siècle, à l'approche de la Toussaint, les enfants creusaient des betteraves et ils y faisaient des trous en forme d'yeux, de nez et de bouche. Ils y mettaient ensuite une bougie à l'intérieur et ils fabriquaient ainsi un lampion à tête humaine pour faire peur aux passants. Dans le Finistère, on fêtait la fête de Samhain. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N. Alors, peut-être Samhain, je ne sais pas comment ça se prononce, qui signifierait en gaélique « fin de l'été ». Il y a des coutumes similaires, des pratiques similaires en Suisse, en Belgique, en Angleterre et surtout en Irlande. Je dis cela car il semblerait que ce soit les Irlandais qui ont exporté Halloween aux États-Unis. C'est de l'Irlande que vient la légende de Jacques aux lanternes, qui a donné plus tard l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Selon la légende, ce Monsieur Jacques a vécu des péripéties avec le diable, et à la fin, il se retrouve coincé entre le paradis et l'enfer. Il est refusé en enfer, il est refusé au paradis. Et donc, il réussit à se faire une lanterne avec un navet creusé en guise de lampion, et il réapparaît tous les ans à la période d'Halloween. Toutes ces coutumes, toutes ces croyances viendraient d'une époque encore plus lointaine, et cela viendrait des Celtes. Les Celtes formaient un groupe de population indo-européenne, ils étaient vraiment au centre du continent européen. Leur noyau se trouvait au centre de l'Europe, et leur expansion s'est faite un peu partout, vers la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, ainsi que dans les pays de l'Est. Selon leur croyance, la nuit de Samhain ou Samhain, c'est-à-dire la nuit qui fait la transition entre l'été et l'hiver, c'est un moment où les barrières entre le monde spirituel et le monde terrestre sont ouvertes. Donc, pas de barrière entre le monde spirituel et le monde terrestre cette nuit-là. Il y a donc un risque que les esprits se retrouvent dans notre monde. Et donc, pour chasser les esprits, il faut leur faire peur. D'où les masques et les déguisements repoussants que l'on peut trouver à Halloween. Alors, quel rapport avec le christianisme et la Toussaint? Eh bien, jusqu'au 8e siècle, la Toussaint était fêtée au printemps. C'était une fête pour commémorer les martyrs chrétiens. Mais les papes des 8e et 9e siècles ont déplacé la Toussaint au 1er novembre. Et ils ont dédié cette fête à tous les saints. Certains pensent que c'était une manière de récupérer les fêtes populaires de Samhain. Ce n'est que bien plus tard, au XXe siècle, que les satanistes récupèrent à leur tour Halloween pour l'insérer dans leur calendrier. Donc si l'on résume, Halloween vient d'Europe. Les traditions populaires de notre continent nous viennent certainement des Celtes. Les rituels pratiqués relèvent plutôt des coutumes et de croyances légendaires basées sur la crainte du monde spirituel. Donc Halloween, ce n'est pas l'adoration des démons, mais c'est une fête qui exprime la crainte des démons. À l'origine, c'est une fête contre les démons et elle a pour but d'éloigner les mauvais esprits. Et comment éloigner les esprits dans l'esprit populaire? Eh bien, il faut leur faire peur. Et aujourd'hui, c'est devenu la fête des bonbons en forme d'araignée et des déguisements qui font peur. Alors tout ce que je viens de dire n'a pas pour but d'encourager ni de proscrire Halloween. J'ai seulement exposé un historique vraiment factuel et résumé. Nous verrons dans quelques instants si la Bible en dit quelque chose. Mais avant cela, intéressons-nous un peu à Noël. L'origine de Noël vient aussi des croyances et spiritualités populaires. Autour de l'an 270, l'empereur romain instaure le culte du dieu Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Il se trouve que l'anniversaire de ce dieu est le 25 décembre. Ce 25 décembre est aussi le dernier jour d'un carnaval qui s'appelait les Saturnales, où le dieu Saturne était mis à l'honneur. Le dieu Mitra, qui vient de Perse et d'Inde, avait aussi pour anniversaire le 25 décembre. Il y a donc dans diverses cultures des fêtes au début de l'hiver. C'est le moment le moins ensoleillé de l'année. C'est aussi la période à partir de laquelle les jours vont recommencer à se rallonger, d'où l'adoration du Sol Invictus, le soleil invaincu. C'est au IVe siècle que l'on retrouve les premières traces d'une fête chrétienne pour la naissance de Jésus, fixée le 25 décembre, pour essayer de remplacer toutes les fêtes païennes. Pour les chrétiens, la vraie lumière, c'est Jésus. Avant cela, les chrétiens fêtaient surtout Pâques, mais pas la naissance de Jésus, car ce n'est pas une fête mentionnée dans la Bible. Plus tard, la tradition des crèches est arrivée. Ensuite, l'utilisation du sapin dans les écoles dans les écoles du dimanche protestantes vers le XVIIIe siècle. Et le sapin était là pour expliquer la foi chrétienne avec divers symboles. Le sapin représenterait celui qui est enraciné dans la parole de Dieu. En effet, comme le dit le psaume 1, l'arbre planté près d'un cours d'eau aura toujours un feuillage vert. Donc l'arbre, la personne qui est enracinée dans la parole de Dieu, portera du fruit. On accrochait des pommes sur le sapin pour symboliser les fruits de l'arbre de vie. Les guirlandes formaient une route vers le sommet. C'est le chemin qui conduit jusqu'à l'étoile pour trouver le Christ. Et donc on entend parfois dire que le sapin est une tradition protestante. On ne voulait pas représenter Jésus dans la crèche, comme les catholiques, car dans les dix commandements, on interdit de représenter Dieu. Et donc on prend ça à la lettre, et donc on utilise d'autres symboles pour représenter Jésus, des symboles qui ne sont pas humaines. Mais le sapin n'a pas une origine protestante, car si l'on fait des recherches, on trouve des origines qui datent de bien avant le XVIIIe siècle. Il y a même des origines celtes, comme pour Halloween. La difficulté vient du fait que beaucoup d'histoires sont racontées sous forme de légendes, et donc nous n'avons pas des sources très fiables pour déterminer quelle est exactement l'origine du sapin de Noël. Il semblerait qu'il y ait plusieurs origines. Par exemple, je donne juste un exemple, la légende de Saint Boniface. Saint Boniface a été évêque puis archevêque au 8e siècle. Il est né en Angleterre, mais il s'est rendu en Allemagne et dans d'autres pays pour apporter l'évangile. Selon la légende, il aurait trouvé un peuple en Allemagne qui adorait le dieu Thor, qui n'était rien d'autre qu'un arbre géant. Il s'agissait du chêne de Thor, vénéré par la population germanique. Boniface voulait montrer que ce dieu était un faux dieu. Il a donc pris sa hache. Alors, il y en a qui racontent qu'ils étaient sur le point de faire un sacrifice d'enfant à l'arbre. Et donc, Boniface a pris sa hache et il est allé couper le dieu Thor. Et donc, l'arbre s'est écrasé et il a écrasé tout sur son passage, sauf un sapin. Et donc les habitants ont abandonné l'adoration de ce chêne et l'ont remplacé par le sapin. Et Saint Boniface a trouvé une astuce. Il a utilisé le sapin pour parler de Dieu. Par exemple, en expliquant la Trinité à partir de la forme triangulaire du sapin. Alors comme pour Halloween, le mouvement sataniste a récupéré le symbole du sapin pour en faire également un symbole occulte. Lorsque j'étais pasteur dans le Sud, un jour à l'approche de Noël, un chrétien m'a pris à part et il m'a dit à quel point il était choqué de voir des sapins dans les églises. Et en fait, ce chrétien a connu le milieu sataniste et dans ce milieu, le sapin représente une facette de Satan. Donc à chaque fois qu'il voit un sapin dans une église, il y voit un symbole diabolique. Mais les symboles ne sont que des symboles. Et chacun les interprète de prime abord avec son arrière-plan. Et on pourrait parler de plein d'autres symboles chrétiens qui représentent totalement autre chose dans d'autres milieux. Alors maintenant que nous avons dressé un petit historique de ces fêtes, que pouvons-nous dire de leurs points communs et différences? Nous pouvons dire que leurs origines sont païennes et populaires, que dans les deux cas, l'Église catholique a tenté de récupérer ces fêtes pour leur donner un sens nouveau. Et les satanistes ont aussi essayé de récupérer ces fêtes. Concernant Noël, c'est une fête lumineuse, une fête plutôt joyeuse, et pour Halloween, c'est plutôt une fête sombre qui exprime tout de même de la peur de l'au-delà. Finalement, cela nous montre que l'être humain a toujours eu besoin de fêter des événements spéciaux en rapport avec la nature, en rapport avec les astres. Cela nous montre aussi que l'être humain est en recherche. Avec Halloween, l'être humain cherche comment se protéger du diable et des démons, en leur faisant peur. Avec les fêtes du mois de décembre, l'être humain cherche le contact avec le divin. Différents peuples ont tenté de trouver leur réponse dans des rites, dans des fêtes. Mais Jésus apporte une réponse différente, une réponse qui mérite d'être apportée dans ce monde en recherche. Abordons maintenant notre question principale. Comment devons-nous nous positionner en tant que chrétiens et avec l'éclairage de la Bible? Qu'en dit la Bible? Souvent, on aime bien avoir des réponses simples. Peut-on participer à Halloween? Oui ou non? Mais la réponse n'est pas simple. J'ai trouvé un article très intéressant sur le site de la Rébellion. L'auteur explique que la Bible interdit clairement certaines choses présentes dans notre culture. Concernant ces choses-là, il n'y a aucun doute à avoir, c'est non. Par exemple, consulter un voyant, s'adresser à des esprits ou à des morts. Dieu l'a interdit clairement dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament le confirme. À l'inverse, la Bible encourage clairement beaucoup de choses aussi. Et là, c'est oui. Par exemple, apporter la paix, apporter l'amour autour de nous, parler de Jésus, de sa grâce et de son pardon. Il y a aussi des choses neutres dans notre culture. Par exemple, Internet. On peut utiliser Internet pour consulter des articles, pour s'envoyer des messages. Mais Internet sert aussi à des choses moins honorables. Internet n'est donc pas bon ou mauvais en soi, c'est l'utilisation que l'on en fait qui est bonne ou mauvaise. Enfin, il y a des choses dans notre culture qui sont rachetables. Par exemple, Noël. Noël était une fête païenne pour fêter le dieu soleil, mais les chrétiens utilisent cette fête pour annoncer le vrai dieu de lumière. De la même manière, l'auteur suggère que ceux qui le souhaitent pourraient profiter d'Halloween pour annoncer ce que la Bible dit à propos du monde des ténèbres, à propos des démons. La présence d'un chrétien lors d'une soirée d'Halloween va-t-elle le contaminer? Va-t-il participer à des pratiques occultes comme la divination? Ou va-t-il simplement être présent dans un endroit où les gens sont déguisés pour manger des bonbons? Voici ce que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 5 et 9. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. La Bible décrit le monde comme étant les ténèbres. Dieu s'est-il abstenu de venir sur terre par peur d'être contaminé? S'est-il dit qu'il n'allait pas manger et boire avec des gens de mauvaise vie par peur de se conformer au monde? Non, au contraire, le Dieu de lumière est descendu dans les ténèbres. Il a mangé et bu avec des pécheurs. Il a été ainsi mal vu des religieux comme les pharisiens, et il a été cloué sur la croix, notamment à cause de cela. Voici les paroles que Jésus prononce avant de mourir. Jean 17, 15 à 18. C'est une prière que Jésus fait à son Père céleste, pour ses disciples. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Jésus ne nous appelle pas à nous retirer du monde, c'est-à-dire à éviter le monde, il nous appelle à y apporter son message tout en nous préservant du mal. Jésus dit aussi en Matthieu 10, verset 16, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. » Que signifie cette parole ? Sous prétexte qu'il y a des loups dans le monde, devons-nous éviter de sortir de notre bergerie ? Est-ce notre devoir d'éviter les lieux qui ne nous semblent pas sains ? En tant que chrétiens, nous préférons parfois rester entre brebis et éviter le monde, parce qu'il risquerait de nous contaminer, parce que nous ne voulons pas nous conformer au monde. Mais alors, que signifie cette parole de Jésus ? Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme les colombes. Je trouve très intéressant que dans notre culture occidentale, la culture la plus opposée au spirituel, la fête d'Halloween, a une place. Je pense que nos contemporains se posent des questions. Et Halloween en est une preuve. Voici un extrait de l'article dont je vous ai parlé. Une journée par année, l'être humain, même dans sa société moderne, se permet de rêver à l'au-delà, au domaine spirituel et même au surnaturel. Cette fête révèle le désespoir ténébreux d'une humanité qui veut transcender cette matière morte. Laissez-moi vous poser cette question. Où sommes-nous lorsque le monde crie à nous ? Je suggère que la fête d'Halloween pourrait être une occasion de parler de spiritualité. La plupart des gens ne connaissent pas l'origine de la fête. Ils ne savent pas que les déguisements avaient pour but d'éloigner les démons. La Bible apporte une réponse plus rassurante et plus vraie concernant les démons. Nous n'avons pas besoin de nous déguiser pour éloigner les esprits, car Jésus a vaincu les ténèbres. Jésus a vaincu les ténèbres. Alors pour conclure, je ne veux pas dire que nous devrions tous fêter Halloween. Je suggère simplement que cette fête pourrait être une occasion de parler de celui qui a vaincu la mort et les ténèbres. Nous sommes appelés à faire preuve de discernement. Si l'on nous propose de faire de la divination, de prier les esprits ou de contacter l'au-delà, la Bible est claire, il n'en est pas question. Dieu n'approuve pas cela. Mais si l'on nous propose de manger ensemble lors d'une soirée déguisée, libre à chaque chrétien de discerner ce que Dieu souhaite ou pas. Et je termine par un verset important de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 15 et 16. Ainsi, le Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Dieu a vaincu les ténèbres. Ne nous jugeons pas les autres, ne nous jugeons pas les uns les autres au sujet d'un régime alimentaire ou au sujet d'une fête. Mais quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Amen.